Vous écoutez Ballet Pat, saison 2, épisode 4. L'homme contemporain est-il émasculé?
Un podcast RFI.
Il arrive parfois que les unes de magazines de mode féminin disent quelque chose de notre époque et qu'elles se retrouvent très largement partagées et commentées en ligne. C'est le cas de la couverture de la version britannique du magazine Vogue datée de février 2022. Rihanna y apparaissait fière, tête haute, marchant sur une plage, entraînant par la main son compagnon, le rappeur A$AP Rocky, qui portait dans ses bras leur enfant en l'embrassant sur le front. Cette couverture a été saluée comme une petite révolution par les féministes, car la photo symbolisait une inversion des rôles entre la femme et l'homme dans un couple. Les masculinistes l'ont critiquée, détestée même. La Sénégalaise Ndeye Fatou Kane, féministe, écrivaine et chercheuse sur le genre, est une fan de Rihanna. Elle a observé toute cette agitation sur les réseaux sociaux concernant la couverture de Vogue UK.
Alors, ce qui m'a frappée, c'est une jeune femme, sûre d'elle, sûre de son pouvoir, qui est devant et derrière son compagnon, qui tient leur enfant. J'ai trouvé cette image extraordinairement belle. Je suis une grande fan de Rihanna, pas pour sa musique, mais pour le fait qu'elle bouscule les codes, que ce soit dans la beauté, dans la posture, dans la façon dont elle mène sa carrière très librement. Et j'aime trop ça. Et les hommes s'en sentaient agressés, et pour eux, c'est une façon de les rendre efféminés. Alors que tous les jours, on voit des hommes de pouvoir qui mènent des carrières florissantes et qui s'appuient sur leurs compagnes pendant qu'ils font leur carrière. Elles gèrent l'espace domestique, elles gardent les enfants. Et personne ne s'est jamais posé de questions. Mais pour une fois que c'est dans l'autre sens, les hommes se sentent menacés. Et c'est ça que je trouve bien, ce bousculement de la masculinité hégémonique. Ça, je trouve ça, c'est un cas d'école qui est vraiment superbe.
Et surtout, beaucoup de commentaires d'hommes noirs, d'hommes africains qui ont critiqué cette couverture, dénonçant le fait qu'on veut émasculer l'homme africain, comment Rihanna elle peut être devant et l'homme derrière qui tient le bébé. Beaucoup d'hommes africains ont mal vécu ça.
Alors quoi qu'on puisse dire, je trouve ça, c'est dommage, mais c'est la réalité. Les hommes noirs, pour eux, leur modèle de fonctionnement, c'est le modèle dominant. Donc pour peu que l'on voit même... L'Amérique et l'Afrique sont très, très éloignées, mais pour eux, ils se sont sentis atteints dans leur masculinité. Donc peut-être qu'ils se disent que dans quelques années, ce sera la même chose. Et je prie pour que ce soit la même chose. Je vois beaucoup de jeunes femmes qui mènent des carrières, mais qui rentrent encore dans le modèle traditionnel de vie du couple. Donc j'aimerais vraiment assister à une période où on renversera les codes. Par exemple, qu'on aura assisté à des congés paternité, que les hommes resteront à la maison pour garder les enfants, comme les femmes le font, et qui feront du travail gratuit. Et là, je pense que peut-être qu'ils comprendront, mais pour l'instant, c'est clair qu'ils se sentent menacés. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Pour peu que l'on fasse trembler un peu, vaciller ce modèle de masculinité hégémonique dominante, ben moi, je suis contente parce que je me dis qu'on est en train d'assister à des manifestations qui prendront racine dans quelques années dans nos sociétés africaines.
Bon, c'est pas gagné parce que quand on regarde notre culture populaire africaine, c'est truffé de normes patriarcales, c'est truffé de discours patriarcaux, tout est en faveur des hommes. Donc, en fait, c'est complètement notre culture populaire, tout ce qui nous est servi sur les écrans, dans nos médias, dans notre culture musicale et tout. C'est tout ça qui doit être complètement chamboulé.
Ah oui, moi, je suis pour... Je me dis qu'une société, pour qu'elle puisse évoluer, il faut tout détruire. C'est comme quand on détruit un chantier et qu'après, on reconstruit. C'est comme ça que je le vois. Et je suis contente de voir qu'il y a une impulsion féminine, féministe, jeune. Que l'on soit féministe ou qu'on s'affirme féministe ou non, pour moi, une fois que les femmes s'unissent, elles feront des merveilles. Et c'est à ce à quoi j'assiste. Il y a le réseau des jeunes féministes, il y a les femmes entrepreneurs. Des jeunes femmes prennent conscience du pouvoir qu'elles ont. Et moi, je trouve ça superbe. Et à côté, je trouve aussi un petit peu dommage que les jeunes hommes ne se rendent pas compte. Ils restent campés dans leurs privilèges. Ils se drapent du manteau de l'intolérance, mais il faudrait aussi qu'ils comprennent qu'il faudrait un jeu d'alliance. Parce que moi, je pense que pour les sociétés, pour qu'elles puissent évoluer, il faudrait que les hommes et les femmes puissent se comprendre. Les femmes ont compris qu'elles ont le pouvoir, il faudrait que les hommes suivent.
En apparence banale, la photo a surtout mis en lumière l'ego fragile de certains hommes qui y ont vu une façon d'émasculer l'homme noir. Ici, en l'occurrence, le rappeur A$AP Rocky apparaissant selon les masculinistes en position de soumission et Rihanna en position de virilité. Vu les commentaires négatifs que cela a suscité chez les hommes noirs, je me suis posé plusieurs questions. Pourquoi se sentent-ils immédiatement menacés dans leur virilité dès que les femmes parviennent à obtenir une petite parcelle de pouvoir ? Pourquoi le simple fait qu'une femme soit mise au premier plan devant un homme provoque autant de critiques ? Finalement, en plus de la domination, et si cette masculinité toxique, cette détestation des femmes par certains hommes qui ne veulent pas les voir s'affirmer, n'était qu'une question d'amour, du fait d'aimer, s'aimer soi-même ou aimer d'autres personnes autour de soi. Écoutez l'écrivain Elgas nous en parler. Lui dont le roman « Mal noir » est né de questionnements personnels autour de l'amour en tant qu'homme africain et tout ce que ce sentiment représente dans la quête de soi, notamment dans la vie d'un homme noir.
Pourquoi ce sujet-là m'a intéressé et pourquoi j'ai voulu, à travers l'aventure romanesque, l'explorer? Moi, j'ai fini ma thèse en 2018. Donc, je suis sociologue de formation, donc j'ai connu cette période un peu d'errance postdoctorale où l'étudiant est devant un horizon complètement fragile, parfois bouché, où il se pose 10 000 questions. Et ces questionnements ont été carrément existentiels pour moi. C'est-à-dire, vers quoi courons-nous? Pourquoi voyageons-nous? Pourquoi quittons-nous nos terres? Qu'est-ce qu'il y a de plus important finalement? Et dans cette quête économique, parfois financière, ainsi de suite, est-ce qu'on n'écrase pas l'essentiel de nos affects? Et quels sont ces affects-là? Je me suis posé cette question. Est-ce que quitter les siens, d'une certaine manière, partir aussi loin, endurer la solitude, c'est pas d'une certaine manière écraser un sentiment qui est très noble, qui s'appelle l'amour? Voilà. Est-ce que cet amour-là nous tient particulièrement à cœur et qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, je suis parti de cette interrogation-là dans cette période, mais finalement, est-ce qu'on sait aimer? Voilà. Est-ce qu'on a toute cette grammaire affective-là? Est-ce que ce sont des ressources qu'on peut avoir dans la famille, dans les rencontres? Est-ce qu'on l'apprend, et ainsi de suite? Les réponses que j'ai essayé de trouver à ces questions étaient complètement insatisfaisantes, si je puis dire. Et c'est pourquoi je me suis dit, bon, je vais essayer de confesser un mâle noir, un homme noir, pour essayer de savoir ce qu'il pense justement de ce sentiment. Est-ce qu'il est un incompétent affectif? Est-ce qu'il est fragile? Est-ce qu'il l'a appris? Et donc ça démultiplie les champs. On voit que les affects et l'amour, ça amène à la famille, ça amène aux rencontres avec les femmes. Et puis parce que l'amour, ce n'est pas uniquement l'amour des autres, mais c'est aussi l'amour de soi. Et donc ces angles morts-là sont là. C'est-à-dire, dans la société sénégalaise dans laquelle je suis né, est-ce qu'on apprend un homme à aimer dans la spontanéité du geste affectif, c'est-à-dire dans la dévotion ultime pour l'autre, dans le souci de l'autre, dans la bienveillance affective, et puis pas uniquement aimer une femme, mais aimer ses amis, aimer, et puis casser parfois ces barrières de l'ordre de la culture ou de l'ordre de la tradition, nous dit que nous, les hommes, et là, pour le coup, ce n'est pas uniquement africain, nous devons tenir un certain rang social et qu'une certaine dureté est une forme d'identité valorisée et que nos émotions sont parfois de trop. Et donc, le roman donne cette ressource-là de pouvoir aller regarder dans les non-dits, dans les inconforts, parfois dans le malaise, sur nos relations avec diverses personnes pour assumer finalement qu'on est des individus incomplets, parfois faibles, et que cette faiblesse-là, au lieu d'être un défaut, fait partie de l'ossature de notre architecture sentimentale.
Sur la photo dont je vous parlais tout à l'heure, Assap Rocky embrasse son enfant sur la tempe. C'est une marque d'affection, de tendresse. Et Rihanna le dit dans l'interview dans le magazine. Il y a une connexion particulière entre Assap Rocky et leur bébé. On pourrait donc dire que ce dernier a l'instinct paternel et que, tout comme certaines femmes, certains hommes aiment les enfants et sont enclins à développer ce sentiment-là. Attention, ce n'est pas le cas de tous les hommes. On entend souvent dire que les femmes ont de façon innée un instinct maternel. Elles auraient donc de fait un lien particulier avec leur enfant. Cependant, toutes les femmes ne sont pas faites pour aimer les enfants. En faisant une recherche sur Google, la première définition que je trouve, c'est une expression populaire qui désigne un sentiment naturel d'amour inconditionnel et d'instinct protecteur envers les enfants. Elle se manifeste par des sentiments intenses de tendresse, de compassion et de responsabilité envers nos propres enfants et envers les enfants en général. Après avoir lu cette définition, on peut se demander pourquoi la plupart du temps on considère que cet instinct, cette fibre est un trait de caractère propre aux femmes, à toutes les femmes. Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'une façon de déresponsabiliser les hommes. Ces conceptions stéréotypées ont contribué à faire de la femme celle qui doit s'occuper du foyer, et de l'homme celui qui doit pourvoir aux besoins financiers de la famille. Cette distinction des rôles s'est installée comme la norme pour devenir une règle dans le couple, notamment dans les pays africains où beaucoup d'hommes semblent avoir complètement démissionné de leur rôle de père. Cela me rappelle un tweet d'un père burkinabé qui désespérait d'être le seul homme présent aux réunions de parents d'élèves. Voici ce qu'il avait écrit. « Les papas d'élèves, faites un effort s'il vous plaît. Assistez aux cérémonies de fin d'année scolaire de vos enfants. Personne n'a dit que c'était réservé uniquement aux mamans. Ces moments marquent les enfants. Me voici assis comme un intrus parmi une trentaine de mamans souriantes. » Ce tweet, même s'il a été fait sur un ton d'humour, touche du doigt une vraie problématique. L'absence ou disons la démission des pères dans l'éducation de leurs enfants. J'ai plusieurs fois remarqué dans les familles de mon entourage que l'homme est celui qui s'implique le moins dans l'éducation des enfants. Quand par exemple l'enfant se met à pleurer, la plupart du temps il se dirige vers sa mère et non pas vers son père. Pourquoi ? Parce qu'on l'habitue au fait que c'est la mère qui doit s'occuper de lui. Une vision assumée par Zachary Agengane, président de la team féodale.
Chez nous ici, depuis que le monde est monde, c'est la femme à qui on avait laissé l'éducation. Laisser l'éducation à la femme, si nos ancêtres avaient décidé cela, c'est en tenant compte des forces et faiblesses de la femme et des forces et faiblesses de l'homme. Et il fallait équilibrer les rôles, comprenez. L'homme a laissé l'éducation à la femme parce que l'enfant passe plus de temps avec la femme. Et quand l'enfant est né, qui l'allait ? C'est la femme. Je pense que c'est pratiquement à l'âge adolescent que l'homme peut récupérer l'enfant pour l'éducation paternelle et tout. Mais l'éducation de base, c'est à l'enfant. Vous n'allez pas me dire que bon, à partir de 2 ans, 3 ans, l'enfant doit passer plus de temps avec...
Il doit passer plus de temps avec ses deux parents.
Je suis sûr qu'un jour, les féministes vont demander aux hommes d'allaiter les enfants.
Derrière chaque grand homme se cache une femme. La nuit porte conseil. J'ai toujours entendu ces citations, ces phrases poétiques, et je les ai moi-même reprises parfois pour dire que ce sont les femmes qui soufflent les bonnes décisions à l'oreille de leurs époux ou compagnons au cours de la nuit. Je pensais naïvement qu'elles servaient à valoriser les femmes, à reconnaître le rôle qu'elles jouent dans les dynamiques de couple. À tort, de mon adolescence à ma vingtaine, je me préparais à devenir ce genre de femme moi aussi. Effacée, soumise, prête à tout pour satisfaire son homme. Car dans mon entendement, je ne devrais jamais prendre le dessus sur un homme. Les années ont passé, j'ai appris des choses afin de développer mon esprit critique, notamment sur les questions de féminisme. J'ai fini par comprendre qu'en fait non. Ces citations trompeuses ne servent pas du tout à élever les femmes. Ces phrases véhiculent de façon insidieuse l'injonction que la femme doit toujours soutenir son homme et permettre à ce dernier de réussir, pendant qu'elle, elle reste dans l'ombre quitte à parfois sacrifier sa propre carrière. Pour moi, tout cela n'a qu'un seul but, disqualifier la parole des femmes. Écoutons encore le sociologue sénégalais El Gass.
Ce que j'ai remarqué en fait dans le discours particulièrement masculiniste conservateur, c'est que c'est la finesse et l'habileté à travers lesquelles on essaie de corrompre le discours féministe. C'est-à-dire, au Sénégal, le discours religieux, il va encenser les femmes. Ils vont dire que ce sont des mères formidables, qu'elles ont pleine qualité, ainsi de suite. Oui, et c'est une manière en fait de les dépolitiser. C'est une manière de les caresser un peu dans le sens du poil pour leur faire entendre. Et parfois, il y a d'ailleurs certaines féministes qui tombent dans le panneau parce qu'en considérant qu'on est en train de les encenser et qu'il faut d'une certaine manière baisser la garde.
C'est la femme qui éduque le monde, c'est nos mères, c'est la mère de l'humanité.
La phrase horrible, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, ainsi de suite. Non, enfin, et puis, détricoter tout ça petit à petit, parce que derrière chaque grand homme, derrière chaque grande femme, il y a peut-être des gens qui le soutiennent, des gens qui l'aiment. C'est aussi simple que ça, qui sont de tous les genres possibles. Mais faire des archétypes comme ça autour des femmes, ce sont des discours élégiaques sur les femmes qui ont vocation à les dominer. Et donc, parfois, le discours... Mais d'ailleurs, les productions féministes sont assez costauds, assez robustes pour débusquer justement tous ces angles morts-là.
Elles sont nombreuses, ces femmes qui ont dû un jour renoncer à leur carrière, à leurs ambitions, pour ne pas éclipser leurs pauvres petits époux, qui, eux, ne supportant pas de les voir réussir et être autonomes financièrement, menaçait de les quitter. En écrivant ces mots, je repense à la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie que j'adore. Pour moi, elle fait partie des écrivaines qui analysent le mieux les rapports de genre. Voilà ce qu'elle écrit dans le manifeste « Nous sommes tous féministes ». Nous apprenons aux filles à se diminuer, à se sous-estimer. Nous leur disons « Tu peux être ambitieuse, mais pas trop. Tu dois viser la réussite sans qu'elle soit trop spectaculaire, sinon tu seras une menace pour les hommes. Si tu es le soutien de famille dans ton couple, feins de ne pas l'être notamment en public, faute de quoi tu l'émasculeras. » Et si nous remettions en question ce principe lui-même, pourquoi faudrait-il que la réussite d'une femme soit une menace pour un homme? Puisque les hommes se sentent menacés et crient à l'émasculation, j'ai voulu connaître la définition exacte de ce mot. Dans le dictionnaire Le Robert, on lit « L'émasculation, c'est la castration, la privation des organes reproducteurs chez l'individu mâle. Rien à voir donc avec le fait de priver un homme de son autorité patriarcale. Je m'interroge. Comment le fait de laisser une femme être ambitieuse priverait l'homme de son organe génital? Dites-moi, comment cela lui enlèverait sa virilité? Je ne sais pas vous, mais moi, après réflexion, je parviens à une seule conclusion. Ces hommes qui veulent préserver leurs privilèges font tout pour garder un minimum de contrôle sur les femmes, surtout dans le couple. Le sujet suscite régulièrement des discussions quand on se retrouve parfois entre amis. Lors de mon passage à Abidjan pour ce podcast, on s'est retrouvé avec quelques potes dans un restaurant pour passer un bon moment et aussi pour parler féminisme. J'ai sorti mon micro pour enregistrer tout ça.
Bienvenue chez toi. Tu allais me.
Bonsoir.
Benaï.
Enchanté. Toi, tu allais me vendre.
Et vous allez voir, la plupart des hommes qui disent soutenir l'égalité homme-femme tiennent toujours le même discours.
Ils vont très certainement dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, ils sont l'égal des hommes, ils sont ci, ils sont ça.
Non, quand tu dis on ne donne pas la parole aux hommes, moi je pense que c'est plutôt les hommes qui
Les hommes qui s'y intéressent pas.
Voilà,
justement,
de s'exprimer sur
parce que pour nous c'est un faux débat. Donc il faut provoquer le débat en venant vers nous. Parce qu'en fait, nous on estime que c'est quelque chose qui n'a même pas lieu de faire.
Voilà, je suis Sylvain Charles Zagré, avocat de profession, exerçant présentement à Abidjan. En tant qu'Africain ayant reçu une certaine éducation, je dis qu'on a certaines valeurs africaines qu'on doit pouvoir garder, qui ne sont pas forcément mauvaises, qu'on doit pouvoir garder, notamment en ce qui concerne la vie de couple, ce qui concerne l'aspect matrimonial dans le couple. Il y a cette égalité qui doit être nuancée. Et dans le couple, on parlera plutôt d'équité de jeu de rôle, de responsabilité de que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que chacun joue pleinement son rôle, que chacun assume ses responsabilités. En tant qu'Africain, c'est l'éducation que nous avons reçue et c'est ce pourquoi je me bats.
Et quand tu dis que chacun assume ses responsabilités, pour toi, dans le couple, quelles sont les responsabilités de la femme et quelles sont les responsabilités de l'homme?
D'accord. Pour moi, en tant qu'Africain dans le couple, la principale responsabilité de l'homme, c'est de subvenir aux besoins du couple, s'il en a les moyens. Si, bien évidemment, ces moyens ne le lui permettent pas, la femme peut lui venir en aide. Dans la mesure où, maintenant, il est quasiment impossible dans nos sociétés qu'un seul homme puisse subvenir aux besoins de tout le foyer. La femme est également appelée à mettre la main à la pâte. Mais je dis juste que dans nos traditions africaines, cette responsabilité ne doit pas être laissée entre les mains de la femme. Je conçois mal en tant qu'Africain.
Surtout en tant qu'homme.
En tant qu'homme africain, je conçois mal qu'une femme prenne en charge l'intégralité des charges du ménage pendant que l'homme, qui se dit homme africain, ne fait qu'être spectateur de ce qui se passe dans le foyer. Pour moi, c'est inadmissible. Mais sur le plan des droits, en tant que je suis de surcroît juriste, avocat, je suis tout à fait d'accord qu'ils aient les mêmes droits. L'homme va à l'école, la femme a le droit d'aller à l'école. Elle a le droit de choisir l'emploi qu'elle veut exercer. Elle a le droit de travailler. Elle a le droit d'enfanter, de faire le nombre d'enfants qu'elle veut. Elle a le droit de, je ne sais pas, plein d'autres droits. Voilà, en tant que juriste, je ne peux pas lui nier ces droits-là. Mais je dis juste que nous devons contextualiser ces droits qui nous ont, entre griffes, été importés. Il faut les contextualiser, il faut les africaniser.
Et selon toi, en quoi et comment ces droits que tu dis qui sont importés bafouent ou piétinent les traditions africaines dont tu parlais aussi?
En fait, dans le fond, ces droits ne bafouent pas les traditions africaines. C'est la compréhension que les gens ont de ces droits qui biaise un peu les traditions africaines. Sinon, ces droits ne bafouent pas les traditions africaines. Quand on dit que la femme a le droit d'aller à l'école, Voilà, même si ça vient de l'Occident, ça, c'est bénéfique pour nous. C'est tout à fait normal que la femme aille à l'école. Quand on dit qu'elle a le droit d'exercer un métier différent de celui de son mari et de l'exercer de façon indépendante, c'est tout à fait normal, c'est son droit. Mais je dis que lorsqu'on dit ça souvent, dans nos traditions, dans nos cultures, dirais-je, dans notre société où la majorité des personnes n'ont pas un niveau intellectuel assez élevé, les gens comprennent ça comme une égalité mathématique. Quand on dit que l'homme est l'égal de la femme, on comprend ça comme une égalité mathématique, alors que cette égalité ne peut pas être mathématique. Il s'agit plutôt d'une équité. Il s'agit plutôt de traiter chacun des deux en fonction de sa condition particulière, de traiter la femme en fonction de sa condition de femme et de traiter l'homme en fonction de sa condition d'homme. Ce qu'on va demander à un homme, on ne le demandera pas forcément à une femme. Ce qu'on va demander à une femme, on ne le demandera pas forcément à un homme. Avec toute la bonne volonté que j'ai, je suis homme, je ne pourrai jamais enfanter. Malgré tous les, je ne sais pas ce que là où la science en est arrivée, mais je ne pourrais pas le faire. Je suis pour que les femmes puissent bénéficier des mêmes droits que les hommes en tant qu'être humain. Voilà, moi je dirais que je suis pour les droits même de l'homme avec grand H. Qu'on soit femme ou qu'on soit homme avec petit H, on bénéficie des mêmes droits. Mais je dis, en tant qu'Africain, qu'il faut nuancer. Prenons l'exemple d'un État. Quand on a un chef d'État, on dit le chef de l'État, c'est le président de la République, mais il ne fait pas tout seul. Il ne décide pas tout seul. Voilà pourquoi il a un conseil de ministre où il s'assoit avec des gens qui lui disent « Ah, monsieur le président, voici, vous pouvez faire ça, vous pouvez ne pas faire ça. Vous ne devez pas faire ça, vous devez faire ça. » Mais n'empêche qu'il y a un qu'on appelle le président. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous l'a dit?
Oui. Donc pour toi, un peu, même s'il y a une certaine collégialité dans le couple, l'homme demeure le chef de famille et ça, il doit toujours le garder.
Exactement. En tant qu'Africain, je le défendrai bec et ongle. Je le défendrai toujours. Je suis juriste, c'est vrai. Je reste toujours sur le domaine du droit. Mais je dis que je m'affirme également en tant qu'Africain. Le fait d'avoir fait des études de droit pour moi ne doit pas me faire perdre la réalité de ma condition d'Africain et de Moussi, burkinabé.
Donc, ça, tu es bien conscient que c'est aussi une manifestation du patriarcat.
Exactement. Le patriarcat n'est pas forcément mauvais. Parce que aujourd'hui, on a l'impression que le patriarcat, on est en train de lui donner une connotation péjorative. Ce n'est pas vrai. Est-ce que si on revient forcément au matriarcat, ça va être positif? Je ne suis pas sûr. Mais le patriarcat doit être nuancé. Il y a des pratiques du patriarcat qui sont d'un certain âge, qu'on ne peut pas continuer. On ne peut pas demander à un homme, un homme ne peut pas dire à sa femme « je ne veux pas que tu travailles » ou décider de type de vêtements que tu dois porter, de plein de choses. Ça, c'est d'un certain âge. Mais le patriarcat veut dire qu'il y a quand même un certain leadership que l'homme doit pouvoir avoir dans le cadre du foyer, je précise. Ce que je viens de dire ne concerne pas la vie professionnelle, la vie sociale et autres. Ça, c'est un autre débat où il y a une égalité parfaite. Mais dans le cadre du foyer, il y a un certain leadership que l'homme doit pouvoir avoir.
Les hommes sont déterminés à ne pas laisser échapper leur domination dans le couple, qui constitue l'un des points d'ancrage du patriarcat. Mais les féministes sont aussi décidées à ne pas baisser les bras. Dans le prochain épisode, il sera question de la pression sociale sur les filles, incitées à se marier tôt, alors que les garçons sont libres de le faire quand ils le souhaitent ou même de jamais se marier. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous, surtout aux hommes de votre entourage, car la question des masculinités est tout aussi importante que le féminisme.
Vous avez aimé cet épisode? Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À bientôt!